Bonjour à tous. Dans votre grande table des idées aujourd'hui, rendez-vous à partir de 12h55 avec l'économiste Julia Caget. Elle a étudié le financement public et privé de la vie politique dans une dizaine de pays et estime aujourd'hui que l'argent fait l'élection. Et oui, en France aussi, elle nous en parlera donc dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, Ala El Aswani, place de la Révolution. Le romancier égyptien revient avec J'ai couru vers le Nil, qui paraît chez Actes Sud, ou le roman de la Révolution de 2011. Francophile et francophone, il écrit en arabe. Et pour la traduction, c'est Gilles Gauthier qui est à la manœuvre. Ala El Aswani est surtout notre invité jusqu'à 12h30 à écouter en direct sur France Culture ou en podcast si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Moi, je suis préparé avec plaisir.
Vous êtes préparé à toutes mes questions. Comme dans l'immeuble Yacoubian ou d'un palier à l'autre, l'écrivain ouvrait les portes pour nous faire entrer dans la vie de ses personnages, où page après page, chaque locataire devenait un peu notre voisin. J'ai couru vers le Nil est un roman à plusieurs voix, qu'un événement réunira, l'occupation de la place Tahrir. Bonjour Ala El Aswani.
Bonjour.
Il paraît qu'un des appartements de l'immeuble Yacoubian a servi en 2011 de QG à des jeunes de la place Tahrir. Vous saviez ça?
Oui, en un sens, oui. Oui, je suis d'accord. Je pense que on a eu une génération en Égypte qui a eu une conscience très différente, et c'est grâce à cette génération que la révolution a été possible à un moment donné. Et on voit ça jusqu'à maintenant. Il y a, j'ose dire, chaque famille en Égypte, il y a deux opinions, l'opinion des jeunes et l'opinion des parents. Et ce sont des opinions très différentes.
Mais que dans l'immeuble Yacoubian, dont vous avez fait un roman qui existe vraiment, en chair et en os et en béton, au Caire, il y ait aujourd'hui, ou il y ait eu, entre 2011, 2012, 2013, un appartement qui ait servi de quartier général pour des militants de la place Tahrir. Ça, vous aviez entendu, c'est vrai?
Oui, j'ai entendu, mais...
Quelle manière de boucler la boucle, quand
oui,
même, aussi.
C'est un honneur. J'ai entendu et j'ai eu beaucoup de prix littéraires dont je suis très fier, mais vraiment, à la place Tahrir, quand quelques jeunes m'ont dit « Nous sommes ici grâce à ce que vous avez écrit », je pense que c'est le prix le plus grand pour un écrivain.
Ala El Aswani, J'ai couru vers le Nil, votre nouveau roman est interdit dans une grande partie du monde arabe, non publié chez vous en Égypte, alors que l'immeuble Yacoubian a été un best-seller en Égypte et partout ailleurs, puisque votre roman avait séduit le monde entier. Et pourtant, vous y énonciez déjà dans l'immeuble Yacoubian quelques vérités qui blessent et d'autres pas faciles à entendre, notamment pour les Égyptiens. Ici, qu'est-ce qui coince pour vous avec J'ai couru vers le Nil plus de 10 ans après? Est-ce que vous avez le sentiment que les esprits se sont crispés, que les temps ont changé?
Non, oui, les temps ont changé, ça c'est... Oui. Mais moi, je garde mon optimisme, malgré le fait que peut-être, en lisant le roman, vous aurez l'impression que c'est fini pour la révolution. Ça, c'est pas mon opinion du tout. Je pense que la révolution continue. Je pense que nous avons besoin du temps. Et aussi, le changement, il y a des changements créés, qui ont été créés par la révolution, qui sont moins visibles que le changement politique, mais beaucoup plus important, à mon avis, beaucoup plus important, comme changement social, changement culturel, vision, notre vision pour la femme, vision pour la religion. Il y a beaucoup de changements, surtout qu'on ne doit pas oublier que 60% des Égyptiens sont au-dessous de l'âge de 40 ans.
Comment écrire à la soignée sous la pression?
Ça dépend quel genre de pression, parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est créer les personnages. Alors, j'ai besoin seulement d'un endroit dans lequel je reste tranquille pour commencer à imaginer et après commencer l'écriture. Et je faisais ça avant dans mon cabinet dentaire et après dans mon bureau. Alors ça dépend, parce que maintenant il y a des tensions en Égypte pires que jamais pour moi. On me considère comme quelqu'un qui est contre l'État. Je suis pas contre l'État, je suis contre la dictature. Et je suis interdit à la télévision, je suis interdit d'écrire dans les journaux égyptiens, je suis interdit d'organiser mon séminaire littéraire que j'ai organisé chaque semaine pendant 20 ans. Je suis interdit même à publier mes livres, parce que le dernier roman, j'ai pas pu publier en Égypte, j'ai publié au Liban. Alors ce sont des tensions qui sont un peu différentes. Et des tensions que je pense que c'est vraiment me rend pas confortable du tout.
Et ces tensions, cette pression, cette chape de plomb, elle est née de quoi, ces interdictions? Est-ce qu'elles sont, elles sont nées de vos précédents romans, de vos précédents livres, ou est-ce qu'elles sont nées de vos déclarations publiques, de votre participation aussi à la révolution de 2011?
Tout. Je pense que tout. Je pense qu'il y a deux. J'avais ces tensions avant avec Moubarak. J'étais toujours contre le pouvoir. Parce que moi, je défends la démocratie. Et on a eu toujours des dictateurs au pouvoir. Alors j'étais contre Moubarak. J'étais contre le conseil militaire. J'étais contre Morsi, l'islamiste. Je suis contre Sisi. Alors, il me considère comme quelqu'un qui, je viens de dire, comme contre l'État, et peut-être, je pense que c'est un honneur parce que ils m'ont interdit, parce que ça veut dire pour moi que j'ai une influence dont je suis fier. Et aussi, la dictature maintenant en Égypte est beaucoup plus agressive que jamais, parce que vous voyez, le régime qui existe en Égypte maintenant se comporte comme un tigre blessé. Et le tigre blessé est beaucoup plus dangereux qu'un tigre qui n'est pas blessé.
Et qui est rassasié.
Jusqu'où on va?
Mais jusqu'à la fin du pouvoir. Il n'y a pas de démocratie ici, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'économie. Ils ne savent que terroriser le peuple.
La révolution de 2011, Alaa El Aswany, vous n'en avez pas été juste un témoin, mais un membre actif derrière le mouvement Kifaya, qui veut dire « ça suffit », aux côtés de cette jeunesse dont l'écrivain se fait aujourd'hui le porte-voix dans ce roman. Asma, la prof, Mazen, l'ingénieur, Khaled et Dania, les étudiants en médecine, l'une est riche, l'autre pas. C'est une jeunesse qui, dans son espoir de changement, va se retrouver confrontée à la mauvaise Égypte, comme le raconte Asma, celle contre laquelle nous avons fait la révolution, l'extrémisme religieux, l'oppression, les crimes du pouvoir, le meurtre des innocents, les rapports falsifiés de la médecine légale, la soumission des procureurs à la volonté de la sécurité d'État. Voilà ce que dit Asma sous votre plume, Alaa El Aswany, dans « J'ai couru vers le Nil ». C'est par tout cela que la tragédie va arriver, et souvent, cette tragédie, elle tourne à la dérision. Vous regardez avec énormément de bienveillance, de respect et d'admiration cette jeunesse, hein, comme Ashraf, le copte en robe de chambre, acteur cantonné au second rôle, méprisé par sa femme, mais désiré par sa bonne, qui finira par quitter son balcon, sa vie monotone, son confort, pour agir, place à rire.
Oui, vous voyez, tous mes personnages ont été inspirés par des personnes que j'ai connues. Les jeunes révolutionnaires, à mon avis, sont vraiment le vrai miracle de l'Égypte. Hein. Parce que c'est une génération avec une conscience impressionnante, une conscience révolutionnaire, mais qui n'a pas eu vraiment une bonne éducation. Il n'y avait pas de projet pour l'État, mais tout d'un coup, ils ont eu cette conscience et ils ont fait la révolution. Et pour Ashraf, oui, j'ai connu beaucoup de gens qui jamais pensaient à la politique, au pouvoir. Ils avaient toujours leur vie Et tout d'un coup, parce que à un moment donné, quand ils ont vu que les jeunes, que la police est en train de tuer des jeunes, alors c'était vraiment un point après lequel ils sont devenus révolutionnaires. Alors j'ai été pour écrire Ashraf, et c'est un personnage que j'aime vraiment. Oui, j'ai été inspiré par des gens pareils.
C'est un roman sur la jeunesse, c'est peut-être aussi celui de la jeunesse que vous auriez aimé connaître. En 77, vous aviez 20 ans, Alaa El Aswany. Nasser est mort depuis 7 ans, Sadat lui a succédé. Quel jeune étiez-vous, vous, Alaa El Aswany? Est-ce que vous étiez déjà un jeune révolté, militant, exalté, ou est-ce que vous étiez un étudiant sérieux, en médecine dentaire, retranché derrière vos livres?
Oui, mais je dois dire un petit mot, parce que 1970, j'avais seulement 13 ans et pas 20 ans.
Non, 77.
Ah, 77.
Vous aviez 20 ans, 77.
Ça, c'était bien, oui. Ouais.
Non, à 13 ans, vous étiez tranquille.
Non, c'est
quand
pas
vous
grave,
aviez 20
c'est pas
ans
grave. Non. Oui, je faisais toujours des problèmes. J'étais toujours un rebelle. Je pensais toujours, j'étais toujours comme ça. J'essaye. Je défends ce que je pense. Je défends ce que la liberté, l'égalité, la justice, et je dis toujours ce que je pense. Et ça m'a créé beaucoup, beaucoup de problèmes. Et ça continue, mais je continue comme ça, c'est ma nature.
En 81, Sadat est assassiné et Moubarak accède au pouvoir. Les étudiants de la place Tahrir ont en fait chassé le président que vous avez vu arriver au pouvoir. Hein. Donc là, oui. Vous aviez 24 ans à ce moment-là.
Oui, et moi, je viens de dire, c'était un miracle, parce que jusqu'au dernier moment, les gens ne pensaient pas. Vous voyez, à l'époque, pendant la révolution, je vivais très proche de la place Tahrir. Et normalement, ça me prenait 10 minutes à pied pour arriver à place Tahrir. Mais pendant la révolution, je mettais 2 heures, parce que les gens tout le temps m'arrêter pour poser des questions, vous voyez. Alors, et c'était toujours la question, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il va démissionner, est-ce qu'on va rester toujours comme ça, des choses pareilles. Le vendredi 11 février, à 6 heures, je suis allé de mon appartement à pied jusqu'à place Tahrir, et j'étais en train d'expliquer pour les gens que oui, on doit continuer et tout. Et tout d'un coup, on a entendu des cris incroyables, et je me suis dit, peut-être la police a attaqué, il commence autrefois à tirer sur les manifestants, mais on a su que Moubarak a démissionné, et c'était une soirée inoubliable, parce que il y avait 2 millions de personnes qui chantaient, qui pleuraient, c'était incroyable.
À plusieurs reprises, vous insistez sur l'absence de culture de révolte en Égypte, Alaa El Aswany. Elle serait même contre nature. Les Égyptiens n'ont pas été créés pour la révolution et elle n'a pas été créée pour eux. Dans la bouche du général Alouani, la révolte et les manifestations sont une chose étrangère à la nature des Égyptiens. Nous avons de tout temps été un peuple obéissant qui respecte ses chefs. Voilà ce que vous lui faites dire. Mais lorsqu'il est en colère contre eux, ce qui se passe sur la place Tahrir est une anomalie par rapport à la mentalité égyptienne. Plus loin, dans la bouche d'Issam cette fois, toutes les luttes qui surviennent entre le peuple et le pouvoir se terminent toujours par la défaite du peuple. Le pouvoir en Égypte échoue peut-être dans tous les domaines, sauf à soumettre les Égyptiens. Cette absence de culture, de révolte en Égypte, c'est vrai ça?
Non, c'est pas vrai. Mais ce sont les opinions de mes personnages avec lesquelles je suis pas d'accord. Vous voyez, quand je crée un personnage, il devient vraiment indépendant. Ces deux messieurs, le général, qui est un criminel, qui torture les gens, il doit dire ça pour justifier ses crimes. Aïssam a été brisé. Aïssam était quelqu'un de militant, très courageux, et à un moment donné, il a été brisé. Alors, il doit dire ça aussi pour justifier qu'à un moment donné, il est devenu avec le régime, avec la dictature, et pas contre la dictature. Mais moi, je suis contre les deux. Je suis pas d'accord du tout. Je pense que c'est pas vrai. Les deux opinions, j'ai beaucoup respect pour mes personnages, et je transmets les opinions de mes personnages, mais plusieurs fois, ils disent des bêtises.
Issam, c'est le plus désabusé de vos personnages dans cette galerie que nous offre J'ai couru vers le Nil. Mais c'est pas le plus cynique. Il est de cette génération qui a cru au communisme, à la révolution, aux idéaux, et qui en a payé le prix aussi.
Oui, mais vous voyez, j'aime mes personnages. Et je n'aime pas mes personnages parce qu'ils sont très bien. Non. Ils ont tous des faiblesses et ils font des choses. À un moment donné, ensemble, c'est vendu, vous voyez, pour le pouvoir. Mais je pense que c'est essentiel. Ou de toute façon, ce qui arrive avec moi comme romancier, que j'aime et je pardonne tous mes personnages. Et je suis très content parce que plusieurs fois, je sens que cet amour pour le personnage, même les personnages qui ont fait des choses mauvaises, cet amour est transmis au lecteur.
Cet amour est transmis au lecteur et cette pondération au milieu de quelques pics, vous la transmettez aussi à travers la parole de certains de vos personnages. La révolution ne doit demander à chaque personne que ce qu'elle a la force de donner, dit Mazaine. Cet équilibre-là, ça, on sent que vous le partagez. Vous vous référez souvent à l'art et la soignée, au discours de la servitude volontaire, de la Boétie. Je vous propose qu'on écoute un extrait d'une lecture de ces mots de la Boétie.
Ce qui advient, partout et tous les jours, qu'un homme seul opprime 100 000 villes et les prive de leur liberté. Qui pourrait le croire ? Si cela n'était qu'un oui-dire et n'arrivait pas à chaque instant et sous nos propres yeux. Encore, si ce fait se passait dans les pays lointains et qu'on vint nous le raconter, qui de nous ne le croirait inventé à plaisir? Et pourtant, ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre, il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s'agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner. Qu'une nation ne fasse aucun effort si elle veut pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. Ce sont donc les peuples qui se laissent, ou plutôt se font garrotter, puisqu'en refusant seulement de servir, ils briseraient leurs liens. C'est le peuple qui s'assujettit et se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être sujet ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse.
Les peuples ont-ils encore réellement le choix aujourd'hui?
Oui, absolument. Je vous remercie infiniment parce que c'est un grand penseur qui m'a influencé, Étienne Laboissière, et qui a présenté pour la première fois une idée, je pense, une idée essentielle pour comprendre la dictature. C'est que le dictateur ne peut jamais s'imposer sur un peuple sans que le peuple soit préparé pour une dictature, vous voyez. Alors c'est la dictature, selon Laboissière, c'est un phénomène de deux côtés, le peuple et le dictateur. Et c'est vrai que, oui, en Égypte, c'était toujours comme ça, comme dans tous les pays, il y avait les gens, surtout les gens plus âgés, ils se sont adaptés à la dictature. Ce sont les jeunes qui ont eu une nouvelle conscience. Mais les parents, ils se sont adaptés. Quand vous vivez 40 ans ou 50 ans sous une dictature, et vous faites votre vie, vous gagnez votre vie, vous élevez vos enfants, alors quand votre fils vient se révolter parce que il veut vraiment des élections justes, vous ne serez pas capable de comprendre. Vous voyez, parce que vous êtes adapté, c'était toujours le cas, c'était toujours comme ça.
Mais ce qui épuise une société, et vous le rappelez, c'est le déterminisme social, plus que le déterminisme politique. Lorsqu'un homme naît en Égypte, son destin est déjà presque fixé, écrivez-vous. Les gens en Égypte héritent de leurs conditions et il leur est très difficile d'en changer. Ça, c'est aussi une réalité.
C'est une opinion avec laquelle, c'est l'opinion d'Ashraf, et je suis absolument d'accord.
la sécurité oui. contre la liberté. Peut-on en vouloir à ceux qui veulent de la stabilité? Vous, vous ne jugez pas vos personnages à la
Non, jamais.
Jamais. La machine répressive, durant la révolution de 2011, avait une arme de taille, c'était les médias, utilisés pour retourner l'opinion populaire contre les fauteurs de troubles. Là encore, je vous cite, « L'Égyptien ne s'est jamais révolté contre celui qui gouverne. Savez-vous pourquoi le complot de janvier a pris comme ça? Parce qu'il y a des jeunes qui ont appris tout seuls comment fonctionne l'information. » Je vous cite, vous, dans le texte, mais c'est l'un de vos personnages qui parle, un des représentants des autorités dans votre roman. Ala El Haswany est notre invité pour son nouveau roman « J'ai couru vers le Nil jusqu'à midi et demi ». Pour l'heure, il est midi 21 sur France Culture.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Et j'ai couru vers le Nil, vous l'aurez compris, nous plonge au cœur des événements. L'écriture romanesque, Ala El Haswany, est-ce qu'elle permet de s'approcher au plus près de la vérité?
Absolument. Absolument, mais aussi, un roman n'est pas un livre d'histoire, il n'est pas une analyse politique, mais c'est un roman. Et ce qui compte pour un roman, que le roman soit vivant. Que en lisant, vous voyez les personnages, vous croyez que les personnages existent. Et quand j'écris, comme je viens de dire, les personnages deviennent indépendants. Et je ne pense pas au symbole que présentent les personnages. Les personnages vont symboliser quelque chose. Les personnages auront des messages à dire. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est que de créer des personnages vivants.
Et pour y parvenir, vous employez l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans ce texte aussi, Ala El Haswany. Vous pratiquez aussi une forme d'ironie par antiphrase. Parfois, le grotesque est là, presque comme une matière brute, qu'il est à peine besoin de travailler, peut-être, pour un romancier. On a le sentiment que plus le mensonge est gros, plus il passe. Et je pense notamment au chapitre où on fait connaissance avec la présentatrice star de la télé d'État égyptienne, Nouran, qui est totalement truculent, où le narrateur revient sur les rumeurs colportées à son sujet en tentant de s'en faire l'avocat, en insistant sur la sincérité de sa foi. Et en même temps, on voit la difficulté pour une femme égyptienne dans ce passage d'exister aussi aujourd'hui entre l'obligation de se conduire en bonne musulmane et avec cette envie d'être une femme indépendante.
Oui, parce que pour moi, dès que vous trouvez l'hypocrisie, alors ça commence vraiment, pour moi, ça commence à me faire rire, vous voyez, parce qu'il y a toujours une contradiction incroyable entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et parce qu'on vit dans une dictature en Égypte, alors il y a pas mal d'hypocrisie, soit l'hypocrisie politique ou sociale, ou soit l'hypocrisie religieuse. C'est que, comme Nouran, elle fait tout pour avoir le pouvoir, pour la fortune et tout. Et ce qui compte pour elle, c'est être voilée ou ne pas être voilée. Vous voyez, ça, c'est malheureusement n'est pas un cas rare en Égypte. Vous voyez. Alors oui, je pense que il y a l'humour parce que ces choses me font rire.
Oui, parce que tout pousse dans la société à sauver ou à sauvegarder les apparences aussi. L'hypocrisie est sociale, c'est aussi ce que vous montrez. Elle est pleine de contradictions. Vous soulevez cette question à plusieurs reprises dans le roman. Est-ce qu'on peut être un homme pieux et pratiquer légitimement la torture? La religion d'ailleurs, Ala El Haswany, est omniprésente. On sent que vous n'avez rien contre quand elle est utilisée à bon escient, sauf qu'elle l'est le plus souvent, toujours aujourd'hui, détournée, mal interprétée, pour justifier parfois le pire. Comme le dit Khaled, la morale sans religion vaut mieux que la religion sans morale.
Absolument, je suis d'accord avec Khaled. La morale sans religion est beaucoup mieux que la religion sans morale. On a la religion sans morale plusieurs fois, je ne dis pas souvent, mais plusieurs fois en Égypte. Ces messieurs qui présentent la religion et qui sont des imams en Égypte, ils sont tous des millionnaires. Moi, j'ai découvert ces messieurs dès le commencement. Mais le peuple égyptien a découvert qu'il y a des hypocrites pendant la révolution. Parce qu'ils étaient tous, ils ont été tous utilisés par le pouvoir pour terminer la révolution. Et à la télévision, chaque jour, il y avait des imams pour dire que c'est cette révolution, comme j'ai décrit dans le livre, dans le roman, cette révolution est contre Dieu et contre le prophète Mohammed. Cette révolution a été faite par un complot zioniste, je ne sais pas quoi. Ce qui est, on dit ça tout le temps en Égypte, que tout ce que le pouvoir n'aime pas,
ça vient de l'étranger.
Oui. Vous voyez, alors les gens, c'est pour cela que je pense on a eu un changement très important après la révolution, qu'il y a pas mal de gens qui toujours défendaient ces gens, ces imams, et maintenant ils comprennent que ils ont été utilisés par la dictature tout le temps.
La question du « et après », elle a été ouverte encore récemment par un film, « Les bienheureux » de Sofia Djama, où Sami Bouajila incarne Samir, un médecin algérois qui a fait le choix de rester. Là, on n'est pas en Égypte, on est en Algérie. Il a choisi de rester après un moment de révolution, de résistance dans sa vie. Il a cru que le pays pouvait se relever de ses drames dans les années 90. Il a cru qu'il pourrait quand même faire changer les choses. Écoutez cet extrait, il est au restaurant avec son épouse.
On ne pouvait pas tous partir. Amal, on s'est battu quand même, ça compte pas pour toi.
Ya Babak, pourquoi tu t'es démené pour qu'il soit scolarisé dans un lycée français?
Pour qu'il ait un meilleur niveau, c'est tout. Puis tu sais, il est plus très français, ce lycée.
Il est malheureux ici.
Ah, mais pas ce soir,
s'il te plaît. Il est malheureux, je t'assure. Samir.
Pas ce soir. Pas ce soir.
Pourquoi tu veux pas qu'il aille finir ses études ailleurs?
Mais pas ce soir.
T'as pas envie. Ça lui permettrait d'avoir un bagage. Un nouvel horizon, je sais pas.
Samir, viens, on gâche pas l'autre soirée, s'il te plaît.
Un sacrifié, ça va être un sacrifié. C'est ça que tu veux pour lui?
Je veux partir.
Je veux que lui parte.
Les bienheureux de Sofia Djama en salle l'an dernier en France. Partir ou rester, partir c'est fuir pour lui, pour Samir et pour sa femme. Il n'y a plus rien à espérer sur place. Il faut que les enfants aillent étudier ailleurs, s'en aillent. Ce dilemme, vous l'avez ressenti pour vous-même, dans votre écriture, dans votre vie, pour vos proches, pour vos enfants?
Oui, j'ai pas décidé de quitter l'Égypte, mais avec toutes ces tensions, j'enseigne littérature en Amérique, je reste un peu dehors comme ça et je rentre. Mais pour les jeunes, oui, le choix est plus difficile. Les jeunes, il y a pas mal de jeunes qui sont allés, parce qu'il y a des milliers de jeunes qui sont en prison. Simplement parce qu'ils ont participé à la révolution.
Qu'est-ce qu'il en reste de cette révolution de 2011 à la El Aswani?
Reste l'espoir, le rêve et le courage.
Merci beaucoup à la El Aswani. J'ai couru vers le Nil, roman traduit de l'arabe par Gilles Gauthier qui vient de paraître chez Actes Sud. Merci beaucoup.